Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme au moment de reprendre la lecture lors de notre dernier épisode, nous continuons d'écouter de la part de Fernandelle l'histoire de son séjour parisien pour lequel nous le retrouvons au concert Mayol. Nous continuons donc la lecture du livre « Fernandelle m'a raconté », un livre de Raymond Castan aux éditions de la Table Ronde. Le titre du paragraphe que nous allons lire, c'est « Le clair de lune de la butte ». Mais il y a lune et lune. Écoutez plutôt l'histoire. Le clair de lune sur la butte. Un jour, au concert Mayol, racontait Fernandelle dans la tradition la plus classique de la maison, Varna avait eu l'idée d'un tableau intitulé « Clair de lune sur la butte ». La toile de fond représentait un immense ciel bleu nuit, constellé d'étoiles, dominant et éclairé par les reflets blafards du clair de lune, les silhouettes familières des moulins de Montmartre et du Sacré-Cœur. Mais d'astres de la nuit, point. À sa place, dans la toile de fond, on avait prévu un trou rond par lequel, au moment du tableau, la plus jolie femme de la maison montrerait son derrière et uniquement son derrière. Vous avez saisi l'astuce ? Au moment de désigner celle qui ferait ainsi la lune, quelle bagarre dans les coulisses! Il y avait dans la troupe une Suzy Lipton qui devait s'appeler, en réalité, Morissette Cruchon, et qui considérait que cet honneur lui revenait d'office. Elle avait été élue quelques jours plus tôt le derrière le plus beau de France par un jury très officiel. Mais il y avait aussi une certaine Gloria John qui s'appelait, elle, Jeannette Michu et qui n'était pas du tout d'accord. Un aéropage de sculpteurs et de peintres avait proclamé son derrière le plus spirituel de Montmartre, ce qui lui donnait des droits évidents. Montmartre, c'est pas la France, s'indignait Suzy qui ajoutait « Le derrière de Mademoiselle Gloria, ça ne sort pas du quartier. » Parce que, même au comble de la colère, ces demoiselles disaient « derrière ». Le derrière de Mademoiselle Suzy, répondait Gloria, « Je vais vous dire, je m'assieds dessus. » Ce qui était évidemment une façon de parler. Un troisième derrière devait les renvoyer dos à dos, si j'ose dire. « Nous dirons, disait Varna, prudent, que c'est le plus beau du concert Mayol. » Quand on appartient au monde du spectacle, au monde du music-hall à cette époque de Paris, on est de chez Varna, le casino et le concert Mayol, ou de chez Derval, les Folies Bergères. Fernandelle, pourtant, passe de l'un à l'autre. Il se retrouve seconde vedette aux Folies avec Miss Tinguett. « Ça n'avait pas très bien collé entre nous, racontait Fernandelle. Vous savez que pour les dents, elle était bien pourvue, elle aussi. Un jour, j'avais fait une plaisanterie qu'avait rapportée un journaliste. J'avais dit « La Miss et moi, on mange au même râtelier », ce qui n'était ni très spirituel ni très méchant. Le lendemain, folle de rage, elle avait réussi à me faire supprimer un sketch où je l'imitais. Pagnol m'avait consolé. Les dents, m'avait-il dit, tu vois, c'est comme la langue du fabuliste Ésope. Il y en a qui s'en servent pour sourire, et d'autres s'en servent pour mordre. Fernandel évoquait aussi ses passages à l'ABC chez Mitty Goldin, qui ne venait pas de Marseille, mais de beaucoup plus loin en Méditerranée. On disait de lui qu'il aurait pu s'asseoir sur un fauteuil de balcon, si on pouvait s'asseoir sur une astuce. Goldin, célèbre pour avoir un jour parlant à une jeune chanteuse très belle, eut ce lapsus révélateur « Vous passerez sous mon bureau », avait eu surtout dans sa vie une idée de génie. Il avait noté que, lorsqu'il donne les programmes des music-halls, les journaux classent toujours les salles par ordre alphabétique. Alors, pour être sûr d'avoir toujours le sien en tête de colonne, il l'avait baptisé ABC. Fernandel y avait fait des triomphes. Les auditions de l'ABC. Il y avait tous les 15 jours, racontait-il, une séance à l'ABC, qui était réglée comme une cérémonie. Celle où le seigneur des lieux faisait passer les auditions pour les prochains programmes. Il s'installait au milieu de la salle vide avec sa secrétaire. Sur la scène mal éclairée, les artistes, éperdus de trac, essayaient de le séduire. Tout d'un coup, le pauvre type qui racontait une histoire drôle entendait dans la salle une voix terrible qui tombait sur lui comme la foudre de Jupiter. « Ça fait pas rire !» Mais quand on lui présentait un numéro exceptionnel, une attraction unique au monde, Goldin pensait aussitôt qu'il allait devoir la payer très cher. Et pour faire baisser son prix, il la commentait avec une pointe de dénigrement. Un jour, disait-on, Mitty Goldin voit arriver pour une audition un jeune garçon qui se place au milieu de l'avant-scène. Il étend les bras, il commence à les agiter comme des ailes et tout d'un coup, il décolle, il s'envole, il traverse la salle, il passe au-dessus de la tête de Goldin et va très délicatement se poser comme un passereau sur le garde-fou du premier balcon. Alors, Goldin, affolé du cachet énorme que doit demander une attraction tellement sensationnelle, mais qui ne veut pas non plus la laisser aller chez un concurrent, enlève son cigare de sa bouche et sur le ton le plus désabusé. « Oh oui, encore un imitateur d'oiseau !» Fernandel adore raconter les histoires. Quand il en sait une nouvelle, il la répète à tous ceux qu'il rencontre. Ce qui fait que, quelquefois, ses familiers ou les amis avec qui il tourne, Andrex, Gilles Grangier, Jean Mancé, Manuel Gary, l'entendent 3 ou 4 fois d'affilée. Et ils finissent par ne plus en rire. Alors, Fernandel se met en colère. Il y a des milliers de braves gens qui paient leur place tous les soirs pour venir rire en écoutant les histoires de Fernandel. Vous, vous ne payez pas. Alors au moins, par délicatesse, vous pourriez rire. Chapitre 8. Marseille. C'est peu de dire que Fernandel était Marseillais. C'était un Marseillais fanatique, respectant, comme un rituel sacré, les grandes traditions provençales. La sieste, le cabanon, même s'il s'agissait aux Trois-Luc ou à Carie de cabanons de milliardaires. La pétanque. Ah, disait-il, quand j'ai acheté les 1000 roses, la première fois que j'ai fait rouler mes boules sur un sol qui était à moi, mais quelle joie! La partie de pêche. Pour le réveillon de Noël, les 13 desserts. Les figues, les noix, les noisettes, les amandes, les 2 nougats, le noir et le blanc, la pompe, c'est une galette à l'anis cuite à l'huile d'olive, le chocolat, les fondants, les dattes, les raisins secs, les mandarines et le vin cuit. Je crois que je n'ai vu Fernand vraiment en colère qu'une fois. Il venait d'entendre à la radio, à Marseille-Provence, Raymond Oliver donnait une recette de bouillabaisse au poulet. Quel sacrilège ! Et ce n'était pas une colère feinte. Une colère à la Rému avec dérapage contrôlé. Il était en colère vraiment. Il voulait lui écrire à Raymond Oliver. Et au directeur de la radio, et au ministre, peut-être même l'a-t-il fait ? Une bouillabaisse de poulet ? Et pourquoi pas un aioli à la vanille ? Et il vient nous faire cet affront ici, à Marseille, à domicile ? Il n'en finissait plus. Avec Fernandel, il suffit d'être marseillais et on a droit à tous les égards et toutes les faveurs. Un jour, pendant qu'il joue les chasseurs d'images au Châtelet, il reçoit dans sa loge la visite d'un gros garçon aux yeux noisettes et aux cheveux d'ébène qui, avec le meilleur accent de la Canebière, lui explique « Et voilà, monsieur Fernandel, je débute dans le cinéma, comme metteur en scène. Je vais tourner un court-métrage sur Marseille, Escale au soleil. Alors, je suis venu vous demander si vous accepteriez de me dire le commentaire. Et toi, tu es de Marseille, constate Fernandel, plutôt qu'il ne le demande. Oui, monsieur. Alors, c'est d'accord. Pendant le tournage du film, Fernandel dit à son metteur en scène débutant « Mais alors, moi, on ne me verra pas dans ton film ?»« Oh, monsieur Fernandel, vous êtes trop cher. Remarquez, mon père est artisan. Il a une petite chemiserie. Il peut m'avancer un peu d'argent, mais j'ai peur qu'il ne puisse pas m'en donner assez. »« Je vais te dire, » répond Fernandel. Si tu dois me payer mon prix, ton père, même s'il a 20 sa chemiserie, il n'aura pas encore assez d'argent. Alors, dans ton film, je vais paraître pour rien. Je peux bien te faire ça, entre Marseillais. Le jeune homme, c'était Henri Verneuil. C'est ainsi qu'a commencé entre les deux hommes une amitié et une collaboration qui a donné la table au crevé. Le fruit défendu, le boulanger de Valorgue, le mouton à cinq pattes, le grand chef, l'ennemi public numéro un et surtout la vache et le prisonnier, c'est-à-dire beaucoup de films et beaucoup de rires. Enfin, pour rien au monde, où qu'il soit et quoi qu'il fît, Fernandel de Marseille n'aurait renoncé à son pastis, ses pastis. Il en prenait deux avant chaque repas. Parce que les pastis, c'est comme les seins d'une femme. Un, c'est pas assez, et trois, c'est trop. Il buvait du pastis 51, qui est une marque de chez Pernod. Jamais un autre. Ce qui avait bien failli provoquer un incident diplomatique un jour que, invité chez Paul Ricard, il avait demandé au maître de maison qui lui proposait de prendre l'apéritif. « Je ne voudrais pas vous paraître mal élevé, mais nous sommes assez amis pour que je puisse vous poser la question. Ça vous dérange si je vous demande un pastis 51 ?»«
Moi, non, » répondit Paul Ricard, grand seigneur.
« Mais Lucien, le barman, vous allez lui faire beaucoup de peine. » »« Eh bien, tant mieux. » Parce que vous faire de la peine à vous, ça m'aurait embêté. Lucien, je trouverai bien le moyen de le consoler. Lucien, un 51. Fernandel avait ajouté. De toute façon, un jour, Pernod Ricard, ce sera la même maison. Il faut croire que le pastis lui donnait des dons de voyance. La prévision devait se réaliser. Ou à peu près. Quand il signait un contrat pour Montréal ou pour Berlin, il disait « Voulez-vous vous renseigner où on peut trouver un pastis en ville ?» Une fois, à Londres, racontait-il, j'étais l'invité d'honneur des cheminots de Waterloo Station. Et devant mon assiette, qu'est-ce que je vois ?
glacer dans un seau à champagne une bouteille de pastis 51. Il a bien fallu que j'y goûte. J'ai cru que j'allais en crever. Fernandel avait avoué un jour à Jean Noël. J'ai fait 20 fois le tour du monde. J'ai vu l'Arc de Triomphe de Paris, les pyramides d'Égypte, la Statue de la Liberté de New York, la baie de Rio et celle de Naples, l'estuaire du Saint-Laurent. Je vais vous dire, tout ça, c'est bien. C'est même très bien, mais quand même, Notre-Dame de la Garde, c'est autre chose. Il y en a à qui il faut chaque année leur cure à Vichy. Moi, il me faut ma cure de Marseille.
C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je paris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Félicie aussi. Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote, Félicie aussi. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Félicie aussi. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura « Quand tu voudras ». Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie aussi. Je me lavais les mains bien vite, lavabo avait une fuite, Félicie aussi. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale, Félicie aussi. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, Félicie aussi. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie aussi.
Il me dit un jour, en haut des escaliers de la gare Saint-Charles, les rigolos du théâtre Chave. Et voici l'histoire. Nous, les Contendins, nous sommes d'ici depuis 8 générations. Nous avons Marseille dans le sang comme d'autres ont le diabète. Marseille et les planches. Mon père jouait la comédie, ma mère jouait la comédie. Le 7 mai 1903, en soirée, ils donnaient ensemble une représentation du « Commissaire et bon enfant » de Courteline. À peine le rideau a été baissé, vite, vite, il a fallu ramener ma mère à la maison. Heureusement que c'était tout prêt, parce que quelques instants plus tard, je venais au monde. C'est vous dire. Je voudrais pas me vanter, mais si Molière est mort sur la scène, moi... j'ai failli y naître. Il s'en est fallu d'un cheveu. Enfin, je veux dire, d'un rappel. Il y avait boulevard Chave, le théâtre Chave. Aujourd'hui, c'est un cinéma. Eh bien, le théâtre Chave, le grand Signoret y avait débuté. C'est là que j'ai débuté moi aussi. J'avais 7 ans. Je jouais un drame historique. Marceau ou les enfants de la Révolution. C'est d'Anicette Bourgeois, l'auteur du Bossu et de Rocambole. On l'a joué à la télé il y a quelques années, mais je ne l'ai pas revu. Ne me demandez pas ce que ça raconte, je l'ai oublié. Mais le théâtre Chave, ça, je ne l'ai pas oublié. Ça, le théâtre Chave, pour y faire ses classes, ça valait tous les conservatoires. Vous connaissez l'histoire de ce ténor mauvais qui assassine Carmen à Nîmes devant un public déchaîné? Tout d'un coup, un bombardement de tomates s'abat sur lui. Dans la coulisse, sa femme tricote tranquillement. Le chef machiniste lui dit « Dites, ils ne sont pas gentils avec votre mari ?» Elle répond « Oh, ce soir encore, c'est rien. Hier, à Carcassonne, ils me l'ont battu. » Au théâtre Chave, c'était un peu cette atmosphère. On dit que la roche tarpéienne est à côté du Capitole. Nulle part, ils ont été plus près que là. On y passait du pinacle aux gémonies à la vitesse du son. Il suffisait d'un rien, le cri d'un rigolo au deuxième balcon, et tout était foutu. Ce que je vais vous raconter, on ne me l'a pas raconté, je l'ai vu et entendu. Il y avait à Marseille une grande comédienne qui a d'ailleurs fait une belle carrière. Elle s'appelait Jeanne Harding. Son père au théâtre, Chave, était le doyen de la troupe. Un soir, elle aussi y jouait un mélo historique. C'était la spécialité de la maison. L'action se passe pendant la guerre de Vendée. Elle, c'est une jeune fille de la noblesse dont le fiancé vient de trahir la cause des Chouans. Elle est au comble du désespoir. Elle entre dans sa chambre. Elle porte une longue chemise de nuit. Elle se met à genoux au pied du lit. Elle dit sa prière. Puis, elle se relève et avant de se coucher, levant les bras vers le ciel, elle s'écrie sur le ton pathétique « Et maintenant, mon Dieu, que dois-je faire ?» L'émotion dans la salle est à son comble. Alors, dans le silence, depuis le premier balcon, on entend crier « Faire pipi !» Après ça, disait Fernandel, « Eh, vas-y pour enchaîner !» Le seul signe extérieur de richesse chez Fernand, c'est la Cadillac. Il vit sans luxe tapageur. Ce n'est pas qu'il soit avare, il ne se refuse rien. Il a simplement des goûts au-dessous de ses moyens. La Cadillac, c'est son image de marque, sa vitrine, sa façon à lui de dire aux autres et à lui-même « Je suis une grande vedette ». Un jour, il s'est aperçu que, lorsqu'elle était garée devant la porte de sa maison, avenue Trudaine, sur les pentes de Montmartre, elle faisait quand même un peu voyant. Alors, il a déménagé. Il est venu habiter avenue Foch. Là, au moins, la Cadillac passe davantage inaperçue. Encore s'agit-il d'une Cadillac discrète, noire, qui fait plus voiture de grand businessman que bagnole de star. Il la renouvelle tous les 3 ans chez le fournisseur qui lui reprend l'ancienne pour la revendre toujours au même client. Il y a donc un monsieur aisé dans Paris qui a l'exclusivité en deuxième main des voitures de Fernandel. Quelquefois, en extérieur, elle lui sert de loge, cette Cadillac, ou de bureau. Il vous y reçoit pour discuter du point d'un scénario, d'une réplique qu'il souhaite changer. D'habitude, c'est Théo, le chauffeur qui conduit, mais pas aujourd'hui. Je suis descendue à Marseille travailler avec Fernandel, et comme Théo est en congé, il s'est mis au volant. Nous sommes passés au chapitre où il avait une commission à faire chez sa fille Josette. Nous descendons la Canebière depuis les réformés, nous passons devant le Capitole. « C'est là, me dit Fernandel, qu'en 1914, j'ai obtenu le second prix au grand concours des chanteurs amateurs organisé par Comédia. Ça s'appelait le Châtelet. On m'a donné une médaille, un diplôme, 25 francs, et un engagement d'une semaine pour le palais de cristal. La Cadillac a parcouru quelques dizaines de mètres et Fernandel continue. Vous voyez, là, le cinéma, le Pathé Palace. Eh bien, Le palais de cristal, c'était là. Peu après le petit silence qui annonce chez nous qu'on va dire quelque chose d'important. C'est là, je n'avais pas 7 ans que j'ai vu Paulin. Il a dit ça comme il aurait dit, c'est là que je suis née. Un peu plus bas, nous passons devant les variétés. Et là, me dit Fernandel, j'ai créé Ignace. Du pâté palace aux variétés, ça fait peut-être 100 mètres de canebière. Seulement pour les faire, ces 100 mètres, j'ai fait le grand tour. Les débuts dans notre métier sont toujours difficiles. Fernand fait le grand tour. Un jour, explique Fernandel, Bourville m'a raconté qu'à ses débuts dans une troupe d'amateurs, quand il allait chanter mes chansons dans les arrière-salles des cafés autour de Rouen, lui et ses copains faisaient la quête à la mouche. Voilà comment ça se passait. Chaque artiste, après son tour de chant, passait dans le public pour faire la quête dans une assiette plate afin qu'elle rapporte davantage. Dans une assiette plate, on n'ose pas mettre des pièces de monnaie trop petites, ça se voit. Tandis que dans un chapeau, ça ne se voit pas, alors les gens ne se gênent pas. À la fin de la séance, les chanteurs mettaient ensemble le produit de toutes les quêtes qu'ils partageaient avec le chef de troupe et le patron du café. Alors, pour qu'aucun chanteur n'ait la tentation de prendre directement quelques pièces dans l'assiette pour se les mettre dans sa poche, au moment où tu partais faire la quête avec ton assiette dans la main droite, dans la main gauche, on te mettait une mouche vivante. Comme ça, tu étais obligé de garder le poing fermé et tu ne pouvais pas piquer quelque chose. Quand tu revenais, tu remettais les pièces de la quête au chef de troupe, tu ouvrais la main gauche et la mouche s'envolait. C'était la preuve que tu avais bien tout rapporté. À Marseille, on n'a jamais connu ces mœurs de sauvages. Mais en 1914, mes cachets de vedette du samedi soir, même quand j'allais chanter à Gémenos ou à Camoin, il n'y avait pas de quoi me faire vivre. Surtout quand mon père partit pour la guerre, il a fallu que je cherche du travail. Alors là, les places ont défilé. Attendez, il comptait sur ses doigts. En 1915, je suis entrée à la Banque nationale de crédit, rue Saint-Ferréol, comme garçon de course. On disait saute-ruisseau. Pour 25 francs par mois. C'est mon grand frère Marcel qui m'y avait fait engager. Le directeur, c'était M. Gatineau. Quand il m'a vu maigre comme un Scott Stockfish, il a dit à mon frère, « C'est pas un grenadier !»« Non, » a répondu mon frère, « mais il court vite !» Là, je me suis fait un copain inséparable que j'ai gardé toute ma vie, Jean Mancé. Quand on m'a remercié de la BNC, je me suis retrouvée à la savonnerie Belon, rue Sainte-Cécile, comme facturier vérificateur. Une erreur de calcul et on m'a licencié 2 mois plus tard, avec une indemnité de 50 francs et 30 kilos de savon. Alors, je suis entrée à la papeterie Granger, rue Paradis. Puis, Rebanque, la société marseillaise de crédit. Puis, à la compagnie d'électricité, rue Mazagran. C'est à ce moment-là que mon père est revenu de la guerre et j'ai travaillé avec lui dans l'alimentation. Pas longtemps. On sait pourquoi. Le coût des sardines du Portugal. Je me suis retrouvée docker. Pas longtemps non plus. C'était trop pénible. Des copains m'ont fait entrer dans une maison de textile. Chanet et compagnie, tissus et tapis. Puis, j'ai fait 4 banques d'affilée. La Banque impériale ottomane, rue Saint-Ferréol, la Banque Mathieu Martin, les Cajots, rue Grignan, la Banque franco-chinoise, rue Grignan, et enfin, la petite Banque populaire provençale, rue de Rome, au premier étage, au-dessus de Saint-Denis, le grand confiseur chez qui le tout Marseille achetait ses friandises du dimanche et chez qui les grands-parents du boulevard Longchamp amenaient goûter leurs petits-enfants. On était 5 employés en tout, et pour tout à la Banque Populaire Provençale. Et comme j'avais réussi à y faire entrer Jean Mancé, que j'avais retrouvé sans place, on s'était retrouvés 6. Mais ça se passait à la bonne franquette. Le soir, parfois, quand on n'avait pas fini le travail du jour, on nous laissait la clé de la banque et on devait la rapporter en partant chez ce Madeni, le confiseur du dessous, qui était aussi un de nos administrateurs. On s'en est fait foutre à la porte avec Mansé, parce qu'une fois, on a tellement chahuté quand tout le monde a été parti que tout le plâtre du plafond de chez ces Madeni est tombé sur ses gâteaux. Alors, je me suis retrouvée dans les savons. Après le régiment, j'ai fait la savonnerie du fer à cheval, puis la savonnerie de la cigale chez M. Richelm au Rouet. Et après, ça a marché. Après, j'ai été chanteur. Aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je me dis que si j'ai fait tant de maisons, c'était pas que j'étais plus fada ou plus testard qu'un autre. Seulement, dans chaque place, je me disais « Oh, Fernand, méfie-toi. Il faut pas que tu te laisses avoir. Il faut pas que tu t'installes. Tu es ici en attendant d'être chanteur. » Parce que je me tutoie quand je me parle. Et forcément, je n'apportais jamais dans ce travail provisoire pour moi l'attention et le sérieux d'un qui aurait voulu y rester et y réussir. J'aurais été plus sérieux comme comique. Il y a dans Marcel Pagnol un brigadier de gendarmerie qui dit « Le plus étonnant, c'est que je ne suis pas gendarme pour un sou. Tous les matins quand je me réveille et que je vois cet uniforme sur une chaise, je regarde de tous côtés et je cherche des yeux un gendarme tout nu. Et il me faut au moins une minute pour que je me rende compte que ce gendarme tout nu, c'est moi. » C'est l'histoire de beaucoup de gens. Ils font un métier et ils ne savent pas pourquoi ils font celui-là plutôt qu'un autre. Il y en a un qui devient menuisier parce qu'on le lui a proposé et il l'a pris en attendant. En attendant quoi? Et tout en faisant ce métier, il est sûr que ce n'est pas le sien, que c'est provisoire. Et puis un jour, il meurt après avoir fabriqué 5000 armoires dont il se foutait complètement. Et il y a à son enterrement tous les menuisiers de la province, parce qu'il est mort doyen des menuisiers, et on va mettre sa varlope au musée de la menuiserie. Oui, c'est surtout pour ne pas être toute la vie en attendant employé de banque et de savonnerie, comme d'autres sont gendarmes ou menuisiers, que dans chacune de ces places, Fernand, au bout de quelques mois, se faisait foutre à la porte avec ponctualité. Quand il m'arrive de passer devant le cimetière de Passy, dans les brumes parisiennes, j'ai toujours le cœur serré en pensant que c'est là, sous ce ciel gris, au milieu de ces murs tristes, que repose Fernandel, le Marseillais fanatique qui aimait tellement sa ville, ses rues, sa bonne mère, ses habitants et son ciel, et sa mère et ses couleurs. On l'a mis là, en attendant. En attendant quoi ? Pour terminer cet épisode, je ne reprendrai pas les thèmes évoqués déjà pendant notre lecture. Je me permets de relire seulement quelques mots qui ont retenu mon attention. Je vais reprendre quelques mots en page 133. Le seul signe extérieur de richesse chez Fernand, c'est la Cadillac. Il vit sans luxe tapageur. Ce n'est pas qu'il soit avare. Il ne se refuse rien, il a simplement des goûts au-dessous de ses moyens. La Cadillac, c'est son image de marque, sa vitrine, sa façon à lui de dire aux autres et à lui-même « Je suis une grande vedette ». Et je veux reprendre encore un petit texte. Nous lirons celui-ci en page 139. Après le régiment, j'ai fait la savonnerie du fer à cheval, puis la savonnerie de la cigale chez M. Richelm au Rouet. Et après, ça a marché. Après, j'ai été chanteur. Aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je me dis que si j'ai fait tant de maisons, c'était pas que j'étais plus fada ou plus testard qu'un autre. Seulement, dans chaque place, je me disais « Oh, Fernand, méfie-toi. Il faut pas que tu te laisses avoir. Il faut pas que tu t'installes. Tu es ici en attendant d'être chanteur. » Fernandelle a encore beaucoup de choses à nous raconter. N'oubliez pas d'écouter la suite en direct sur notre antenne les mardis et mercredis à 21h30 ou retrouvez-moi dans le podcast sur le site radioallianceplus.fr. Et à bientôt, les amis auditeurs.